Donc, bonjour à tous et bonjour aux internautes également. Et donc, bienvenue à cette dernière séance du cours 2019-2020. Alors, séance qui est un petit peu spéciale. Bon, d'abord, c'est la dernière séance. Ensuite, on va commencer par le séminaire et pour finir par le cours. Et dernièrement, c'est moi qui vais faire le séminaire, car sur ce sujet dont nous allons parler aujourd'hui, la représentation des variables et de leur liaison, je n'ai pas trouvé d'orateur qui est assez courageux pour en parler pendant une heure. Et donc, mais je vais avoir le plaisir de le faire, sachant que c'est un sujet auquel je me suis pas mal intéressé par le passé également. Donc, alors, une des raisons pour lesquelles je voulais qu'on fasse un séminaire sur ce sujet, c'est qu'on a déjà rencontré quelques difficultés avec les variables et leurs liaisons dans le cours précédent, celui sur les langages fonctionnels. Et donc, je voulais vous montrer plus précisément quelles sont les difficultés et quelles sont les différentes solutions qui ont été explorées. Alors, je commence par quelques citations. La première, c'est donc l'extrait de Roméo et Juliette de Shakespeare qui donne son sous-titre à l'exposé. Donc, ce que nous appelons une rose, par tout autre nom, sentirait aussi bon. La deuxième citation est de Barendrecht dans son traité de lambda calcul pur, où, après avoir parlé pendant un certain temps de ce problème des liaisons et des renommages, il décrète que les termes qui sont alpha congruents sont identifiés. Et donc, à partir de maintenant, nous écrirons lambda xx égale lambda y, etc. J'aime beaucoup le etc. Et le troisième, c'est des remerciements. Donc, Clini, qui est à la fin, un des pères fondateurs de lambda calcul, qui, à la fin de ses articles, remercie un de ses collègues de lui avoir signalé une erreur dans sa gestion des variables liées. De quoi s'agit-il ? Donc, la plupart des langages de programmation ont des constructions qui lient des variables. Par exemple, une définition de fonction, une abstraction de fonction, lambda x.m, la variable x, le paramètre, est lié dans le corps de la fonction. Les définitions de variables locales, une construction let en camel, par exemple, let x égale m in n, x est une variable locale qui est liée dans n. Les filtrages aussi, filtrer M avec la paire XY, le motif X, y, ça va lier X à la première composante de la paire, Y à la deuxième composante de la paire pendant l'évaluation de N. Vous avez aussi des lieux dans les expressions de type. Si vous avez des quantificateurs, par exemple des types universels pour tout alpha, alpha flèche alpha. Et le point commun de toutes ces variables liées, qu'on appelle aussi variables muettes, je crois en mathématiques en France, c'est qu'on peut les renommer sans changer le sens. Comme la rose, on peut renommer x dans lambda x plus 1 en y, qui nous donne lambda y, y plus 1, et ça la sent aussi bon. De même, pour tout alpha, alpha flèche alpha, le type des fonctions polymorphes, des identités polymorphes, c'est le même type que pour tout bêta, bêta flèche bêta. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'alpha conversion, ce renommage. C'est Church qui a introduit cette terminologie dans ses premiers papiers sur le lambda calcul. Et alors pourquoi c'est important de pouvoir renommer les variables liées ? Eh bien, par exemple, pour pouvoir définir correctement la substitution, qui est une opération essentielle, parce que en présence de lieurs de construction qui lient des variables, cette substitution, remplacer x par n dans m, doit éviter de capturer une variable qui est libre dans n par un lieur de m. Par exemple, si j'ai la fonction lambda y x plus y, donc la fonction qui ajoute x à son argument, si j'emplace x par z, j'obtiens bien la fonction qui ajoute z à son argument. C'est correct. En revanche, si je ne fais pas attention et que je remplace x par y, j'obtiens la fonction qui double son argument, qui prend y et qui fait y plus y. D'accord ? Et donc là, il y a eu capture du y qui était libre ici par ce lambda lieur qui est ici. Et donc ça, ce n'est pas une substitution correcte. Et comment l'éviter de manière systématique ? Par renommage, par alpha-conversion, avant la substitution. Donc ici, on va commencer prudemment par renommer le y en u. Donc ça fait lambda u x plus u, dans lequel on peut remplacer x par y et obtenir... oui, sauf que là, j'ai une faute de frappe, excusez-moi. Lambda u y plus u, c'est-à-dire le lambda qui incrémente, la fonction qui incrémente son argument de la valeur y. Donc ça, c'est une substitution correcte. Et donc, quand on formalise un langage avec des lieux, c'est-à-dire la plupart des langages de programmation, eh bien, sur le papier, l'usage est de prendre les termes du langage modulo alpha conversion. Donc, généralement, on dit juste que les termes sont identifiés à renommage des variables liées près. Et si on est un peu plus attentif, un peu plus formel, comme Barendrecht au début de son livre, on commence par définir une syntaxe abstraite qui a des noms et des lieux, mais où les termes ne sont pas encore identifiés modulo renommage. On définit précisément une relation d'égalité modulo alpha conversion, donc un terme est égal à lui-même, une lambda est égale à une autre lambda si on l'obtient l'une par renommage de la variable liée dans l'autre, et pour une application, ben, si deux termes, si les parties gauche et les parties droite sont égales, alors l'application est égale. Et là, on travaille dans un ensemble quotient, l'ensemble des termes définis par cette grammaire, quotientés par cette relation. Voilà. Bon. Et maintenant, qu'est-ce qui est difficile là-dedans? Pourquoi je vais vous en parler pendant une heure? C'est que cet usage est difficile à mécaniser avec un assistant à la démonstration. Et alors, du coup, pour des langages suffisamment simples, des types simples, des réductions faibles sur des termes clos, comme on a fait la semaine dernière, on peut en fait travailler sans alpha conversion. Donc, on omet les étapes 2 et 3 ici. Mais quand on travaille sur des langages plus complexes, et en particulier des langages avec des types riches, comme on va en voir dans l'heure de cours qui va suivre, il faut inventer des manières de décrire ces variables et leurs lieux, et c'est le but de ce séminaire que de décrire ces autres manières. Alors revenons un petit peu sur pourquoi c'est difficile. Donc premièrement, il faut travailler dans un ensemble quotient. Alors, on peut représenter des types quotients dans des systèmes comme Coq ou Agda ou Lean, éventuellement, ou Isabelle HOL, éventuellement avec quelques axiomes. Ce n'est pas ça le problème. Il n'y a pas un problème absolument théorique, fondamental. Il y a un problème pratique qui est que toutes les définitions et tous les énoncés doivent être compatibles avec cette relation d'équivalence. À commencer par exemple, la définition des variables libres. Donc ici, on a défini l'ensemble des variables libres d'un terme, non quotienté, et maintenant, par ces trois équations ensemblistes, et maintenant, pour pouvoir parler des variables libres d'un terme modulo alpha conversion, il faut démontrer que cette définition est compatible avec l'alpha conversion, ce qui n'est pas très difficile, mais demande un peu de travail. Et plus généralement, donc, toutes les définitions, tous les énoncés vont venir en deux versions, d'abord sur les termes bruts et ensuite quotientés. Ensuite, il y a des questions sur les bons principes de récurrence. Donc, quand on a des termes d'un langage, on veut pouvoir démontrer des choses par récurrence structurelle sur les termes. Et donc dans le cas lambda, donc si dans le cas la propriété p a montré sur une lambda abstraction, lambda x.m, quelle hypothèse de récurrence peut-on supposer? Uniquement que p est vrai du corps m du terme non renommé, ou bien que p est vrai du corps m où x est renommé par un y quelconque qui n'est pas libre dans m. D'accord. En termes un peu plus savants, autant on sait faire des récurrences structurelles sur des termes comme ça, non quotientés, autant, quand on les quotiente par une relation d'équivalence, la notion de récurrence structurelle est moins évidente. Et ne serait-ce même que définir la substitution sans capture comme une fonction n'est pas complètement évident. Ce qu'on voit dans les articles, ou ce que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure, c'est bah oui, on remplace la variable liée y par une variable z, d'accord, et ensuite on fait la substitution dans le corps de la fonction. Et donc généralement il y a une condition sur le côté qui dit z est fraîche. Z is fresh en anglais. Ça m'a toujours amusé, cette notion de fraîcheur. Ça me fait penser au poisson dans Astérix. Donc, c'est quoi une variable fraîche ou bien fraîche? Donc, comment choisir Z de manière appropriée? Comment choisir Z de manière déterministe? Parce qu'on est quand même quelque part en train de. On voudrait définir une fonction. Alors, on peut dire, par exemple, Z est le plus petit nom de variable qui n'est pas libre ni dans M ni dans N. C'est une définition possible. Mais après, aussi, comment est-ce qu'on traite cette récurrence, qui, à nouveau, n'est pas structurelle? D'accord. On va substituer ici, dans un terme qui est le renommage de y par z dans m, qui n'est a priori pas un sous-terme syntaxique de m. Donc là aussi, on revient sur notre question précédente. C'est quoi le principe de récurrence qui nous permet de travailler? En tout cas, cette récurrence-là, elle n'est pas acceptée directement par Koch. Alors bien sûr, on peut faire d'autres styles de définition. On peut faire une récurrence sur la taille du terme. On peut faire des prédicats inductifs au lieu d'une fonction. Donc la substitution est une relation, n'est plus une fonction. On peut faire plein de choses, mais vous voyez que ce n'est pas évident. Dès le début, on bute sur des difficultés. Et donc, pour contourner ces difficultés, il y a un certain nombre d'approches qui ont été proposées et utilisées. Donc aujourd'hui, dans le temps qui nous reste, je vais essayer d'en décrire quatre. Premièrement, la notation de De Bruyne, qu'on a effleurée la semaine dernière. Deuxièmement, les syntaxes abstraites d'ordre supérieur, HOAS, Higher Order Abstract Syntax. Troisièmement, les logiques nominales. Et quatrièmement, l'approche sans noms locaux, locally nameless. Donc c'est à peu près par ordre chronologique d'apparition. Et à la fin, on reparlera du PopelMark Challenge, qui était un défi à la communauté de recherche en langage de programmation lancé par Benjamin Peer, Stéphanie Weyrich et leurs étudiants à l'Université de Pennsylvanie en 2005. Donc le challenge, c'était de démontrer sur machine la sûreté d'un système de type FSUB, système avec du sous-typage et du polymorphisme. Et il y a eu plein de solutions différentes, avec plein de manières différentes de représenter l'alpha-conversion. Mais commençons donc par l'approche la plus ancienne, la notation de De Bruyne. Donc De Bruyne, mathématicien hollandais, qui le père d'un des tout premiers assistants à la démonstration, le système automate. Et donc il s'était bien rendu compte qu'il y avait un problème lorsqu'il voulait représenter des mathématiques sur machine pour traiter correctement ces variables. Et donc il a eu cette idée de remplacer les noms de variables par des positions. Donc ce qui identifie une variable, c'est un indice, 1, 2, 3, 4, qui représente sa position par rapport à la lambda abstraction qui lie la variable. Donc, par exemple ici, ce que j'écrirais avec des noms lambda x, lambda y, x appliqué à y, y, c'est maintenant lambda, lambda, il n'y a plus besoin, implicitement chaque lambda lit la variable d'indice 1, donc ce n'est plus nécessaire de le marquer. J'ai quand même mis des couleurs pour les distinguer. La variable x, elle a maintenant l'indice 2, puisqu'elle est liée par la deuxième lambda englobante. La variable y, elle a l'indice 1, puisqu'elle est liée par la lambda immédiatement englobante. Et donc le corps, maintenant, c'est 2 appliqué à 1 appliqué à 1. Et on voit que c'est une représentation canonique, de termes qui sont alpha convertibles dans une représentation nommée, comme lambda x, lambda y, x, y, y, ou lambda u, lambda v, u, v, v, sont représentés par la même notation de Bruyne. D'accord ? Donc toutes ces questions de quotient disparaissent. En revanche, les opérations de base avec cette notation sont un petit peu difficiles à définir. En tout cas pas un peu surprenante, voilà, on va dire ça comme ça. Donc là, je vous ai montré la substitution, donc substituer la variable d'indice n par un terme p dans un autre terme. Bon, pour l'application, c'est pas difficile, on substitue de chaque côté. Pour une variable, donc si la variable n qu'on substitue, c'est la même que la variable x, bien on remplace x par p, ça c'est le cas simple. Si la variable x est d'indice strictement plus petit que n, on la laisse telle qu'elle. En revanche, si elle est d'indice strictement plus grand que n, il faut décrémenter son indice de 1. Et pourquoi ça? C'est parce que quand on substitue la variable d'indice n, ça revient d'une certaine manière à supprimer le lieur qui lui correspond, donc le n-ième lambda ou le n-ième lieur englobant. Et donc la variable qui avant était liée par le n plus 1-ième lieur englobant est maintenant liée par le n-ième lieur englobant. Et ainsi de suite. Donc, il faut décrémenter ces indices de 1. Et puis, pour une abstraction, donc dans le corps de la fonction, on va substituer la variable d'indice n plus 1, qui est la même chose que la variable d'indice n en dehors de l'abstraction, mais pas par p, parce qu'on risquerait de capturer la variable d'indice 1 introduite par le lambda, par p recalé de 1, donc par p où on a incrémenté tous les indices des variables libres. Et donc ça, c'est l'autre opération qui est nécessaire, le recalage, le lifting, qui revient donc à incrémenter de 1 toutes les variables d'indice supérieur ou égal à n. Donc, de manière générale, il faut se donner en paramètre l'indice de la première variable libre afin que ça puisse passer à travers l'abstraction. Bon, donc la première fois qu'on voit ça, on ne comprend rien. Au bout d'un moment, on comprend que c'est nécessaire et puis c'est complètement systématique. Alors, même chose pour les propriétés, ensuite, qui relient la substitution et le décalage, et qu'il faut montrer. Donc, je ne vais pas toutes vous les lire, mais donc, si on décale, puis on substitue la même variable, alors c'est invariant. Si on décale... Donc là, c'est les trois combinaisons de décalage et de substitution qui nous intéressent, pour montrer la quatrième proposition, qui est celle qui est vraiment importante, qui est l'échange, la permutation entre deux substitutions. Donc substituer n par n, puis p par l, c'est la même chose que substituer p plus 1 par l correctement recalé, puis n par n correctement substitué. Alors, en notation nommée, le dernier lemme, il s'écrit de manière un tout petit peu plus intuitive, mais il a des conditions de bord. Il faut que x soit différent de y et x pas libre dans l. Avec la notation de Debrun, c'est un peu plus compliqué, mais il n'y a pas de conditions supplémentaires. Donc, il y a un aspect complètement systématique qui est bien agréable quand on travaille sur machine. Et le même phénomène se produit lorsqu'on énonce des théorèmes en notation de De Bruyne. Il faut penser à inclure des recalages d'indices pour les variables libres. Donc, d'un côté, ça les rend plus compliqués que les énoncés usuels. De l'autre côté, ça les rend parfois plus généraux. Alors on va prendre deux exemples qui viennent de l'étude des systèmes de type, donc deux propriétés qu'on avait étudiées la semaine dernière. L'une, c'est le lemme d'affaiblissement. Donc une manière de le noter, usuellement, c'est de dire si M est type tau sous les hypothèses E', vous pouvez rajouter une hypothèse X de point sigma au milieu de votre contexte de typage, et le même terme M a le même type tau. Mais il y a des hypothèses, en particulier que X n'apparaît pas dans E et dans E'. En notation de De Bruyne, vous insérez donc une nouvelle variable de type sigma au milieu de votre contexte, et du coup, il faut recaler le terme M, parce qu'il y a les variables liées avant la variable que vous venez d'introduire, qui doivent être incrémentées de 1 pour ne pas capturer la variable que vous venez d'introduire, et ces variables, pour ça, il faut compter la taille du contexte prime et ajouter 1 pour savoir à partir d'où il faut recaler. Donc là, ce n'est pas très naturel, hein, mais il n'y a pas d'hypothèse supplémentaire sur le théorème. Même chose pour la stabilité du typage par substitution. L'énoncé du théorème final est plutôt clair en indice de De Bruyne. Donc vous voulez substituer la variable d'indice 1 par un terme n dans un terme m qui avait le type tau avant sous l'hypothèse que la première variable a le type sigma, et vous savez que n a le type sigma. Donc, vous voyez, ça, c'est assez naturel, on ne voit pas de recalage, c'est superbe. En revanche, par récurrence sur M, vous allez devoir descendre dans des lambdas qui sont dans M, il faut renforcer l'énoncé, et ça devient moins clair. Là encore, votre sigma, il va être pris en sandwich dans un contexte, entre E' et E, et il va falloir substituer la variable d'indice taille de E' plus 1, pour que le théorème soit vrai. Donc, en résumé, donc la notation de De Bruyne, c'est une solution rigoureuse et fiable au problème de mécaniser des langages avec lieurs. Essentiellement, ça marche toujours. Simplement, c'est un peu pénible. Parce que les définitions, les énoncés des théorèmes sont différents de ce qu'on écrit sur papier avec des variables nommées. Il faut du temps pour s'habituer. Il y a aussi une tentation de faire le développement formel en indice de De Bruyne et l'article, la publication en variable nommée, et de se tromper dans la conversion. Il y a quand même beaucoup d'échafaudages, donc de définitions, de propriétés, des recalages, des substitutions, des environnements, qui sont un peu toujours les mêmes, d'accord, mais qu'il faut prouver à chaque fois. Ou alors, on commence à avoir des outils qui permettent d'auto-générer, étant donné donc une définition de terme, une définition inductive d'arbres de syntaxe abstraite avec des nombres de brins, d'auto-générer une bonne partie de ces définitions et de ces théorèmes. Vous pouvez regarder le système AutoSubst qui est développé à Sarbrook, par exemple. Alors, essayons autre chose maintenant. Essayons ce qui s'appelle la syntaxe abstraite d'ordre supérieur, ou Higher Order Abstract Syntax en anglais, donc HOAS. J'utiliserai cet acronyme. Donc c'est apparu, ou peut-être ça a été redécouvert, à la fin des années 1980, donc par Miller, Nadatour, Fenning, Elliott. Et l'idée de base, c'est d'utiliser toute la puissance de votre logique, de votre assistant de preuve, de votre, du langage hôte, comme OCaml, dans lequel vous programmez votre compilateur. Tous ces systèmes ont déjà des fonctions, et des quantificateurs, et forcément, ils ont déjà résolu ces problèmes d'alpha-conversion et tout et tout. Donc, essayons de réutiliser ce qu'ils ont fait. Essayons de représenter les lieurs du langage objet, le langage qu'on est en train de formaliser, par des fonctions du langage hôte. Camel, si on est en train d'écrire un interpréteur, ou coq, si on est en train de définir une sémantique formelle. Et donc là, je vais faire les premiers exemples en camel. Donc, au premier ordre, une syntaxe abstraite du premier ordre, donc il y a des noms explicites qui désignent les variables ou des indices de demain. Une syntaxe abstraite d'ordre supérieur, le cas d'abstraction, le cas lambda, il porte une fonction des termes dans les termes. Et il n'y a pas de cas variable. Alors, une fonction des termes dans les termes, moralement, c'est la fonction qui, étant donné un terme qui représente l'argument, va vous produire un terme qui représente le corps de la fonction dans lequel le paramètre est substitué par l'argument. D'accord ? Donc c'est la fonction de substitution associée au corps de la fonction, et c'est cette fonction-là qui va nous servir à représenter l'abstraction. Alors, effectivement, il n'y a même plus besoin de cas variables, parce que c'est les variables du langage hôte qui vont nous aider à représenter les variables du langage objet. Par exemple, lambda x, lambda y, x appliqué à y, ça va être représenté par la syntaxe abstraite d'ordre supérieur suivante, le constructeur abs, appliqué à une fonction qui prend un terme, que j'appelle x, comme par hasard, et qui va me rendre le corps de l'abstraction proprement substituée, c'est-à-dire abs, à nouveau, l'abstraction qui correspond à lambda y, x appliqué à y, donc abs d'une fonction qui prend y et qui me rend le terme ap de x, y. D'accord ? Et il n'y a pas besoin de variables d'un troisième cas, d'un troisième constructeur, puisque ici, x et y, ce sont juste des variables du langage hôte de type terme. Et du coup, comme je l'essayais de le dire tout à l'heure, la substitution est gratuite. D'accord ? Substituer le paramètre formel par l'argument effectif dans le corps de la fonction, c'est juste appliquer cette fonction de type terme/terme. Et donc, vous pouvez écrire la bêta-réduction en une ligne, d'accord, c'est la fonction qui, quand vous lui donnez un terme de la forme app d'une abstraction f à un argument, vous renvoie f appliqué à l'argument. Et ça, ça fait la substitution gratuitement. Alors oui, ça donne un peu le tournis la première fois, mais en fait, historiquement, cette idée, on pourrait la faire remonter jusqu'à Church lui-même, dans les années 1930. Pourquoi Church s'est intéressé à la lambda notation initialement ? Une des raisons, c'est qu'il voulait unifier de nombreuses notations mathématiques assez disparates qui lient des variables. D'accord ? Donc les quantificateurs pour tout x, p de x, il existe x, p de x. Les sommes, la somme pour n variant de 0 à l'infini, n est une variable liée ici. Les limites, les intégrales, plein d'autres constructions mathématiques. Et Church, lui, il avait envie de les voir, toutes ces notations, comme des opérateurs, l'opérateur pour tout, l'opérateur il existe, l'opérateur de sommation, l'opérateur d'intégration, appliqués à une lambda abstraction. Donc une lambda qui note vraiment la fonction qui a x associe p de x, ou la fonction qui a n associe 1 sur n au carré. Et donc j'aime résumer ça par un lambda pour les lier tous, d'accord ? Et HOAS, d'une certaine manière, suit la même approche. Au lieu d'avoir un constructeur abs de x, m, qui lie x dans m de manière ad hoc dans votre syntaxe, on utilise le lieu universel lambda, et on écrit abs de lambda x.m. Et c'est le même lambda que le lambda du langage hôte, puisqu'il n'y a qu'un seul lambda pour les lier tous. Alors, donc là, on a vu comment représenter les termes. Maintenant, comment est-ce qu'on va raisonner dessus ? Et là, ça donne encore plus le tournis. En particulier, comment est-ce qu'on va raisonner sur des termes non clos, d'accord ? Des termes qui ont des variables libres, parce qu'il n'y a pas de variables, ou on ne sait pas trop où elles sont les variables. Eh bien, l'idée, c'est encore une fois de faire appel à la logique hôte, la logique dans laquelle vous faites le raisonnement. Dans la logique hôte, vous avez des implications, P implique Q, et vous avez un contexte qui vous aide à raisonner sur les implications. Un contexte dans lequel vous pouvez mettre P en hypothèse supplémentaire, pour continuer à raisonner sur Q. Et on peut faire exactement la même chose en HOAS. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Ici, je vous le fais avec une représentation semi-explicite des hypothèses. Donc, on va se donner un axiome, un prédicat assume, ASSM, de type terme, flèche type, flèche propre. L'interprétation, moralement, c'est de dire, je suppose que un certain terme a un certain type, et dans type étant dans l'algèbre de type simple. Et du coup, maintenant, mes règles de typage, simples, on peut les écrire comme ça. Si j'ai, parmi mes axiomes, parmi mes hypothèses, parmi mon contexte logique, assume x tau, alors je peux déduire que x a le type tau, dans mon jugement de typage du langage objet. Et pour typer une abstraction, abs de f, où f est une fonction des termes dans les termes, avec le type sigma flèche tau, il suffit que je montre que pour tout terme x, si je suppose que x a le type sigma, alors f de x, qui est le corps de la fonction substituée, a le type tau. Donc quelque part, je suis en train de prendre comme définition le lemme de stabilité du typage par substitution. D'accord ? Effectivement, quand j'effectue une substitution, j'ai bien le bon type pour le résultat. Une autre manière de voir les choses, c'est que je suis en train d'écrire les mêmes règles que les règles de typage simples, simplement le contexte de typage, qui normalement c'est une liste très concrète de x, variable x a le type tau, est maintenant représenté par l'ensemble des hypothèses assume x tau qui sont disponibles dans le contexte de la logique haute. D'accord ? Je ne suis plus en train de gérer mon contexte moi-même, j'utilise le contexte de la logique haute. Et du coup, gratuitement, j'ai plein de propriétés. Dans la logique haute, il y a la propriété d'affaiblissement. Donc, je peux tout à fait ajouter des hypothèses. Dans la logique haute, je peux permuter deux hypothèses indépendantes. Donc, là aussi, j'ai cette propriété gratuitement. Je n'ai pas besoin de la montrer. Bon. Alors, pour essayer de vous convaincre que ça marche, voilà une dérivation de typage. Donc, le combinateur K, la fonction lambda x, lambda y, x, le type tau, flèche sigma, flèche tau, pour tout tau et sigma, parce que j'applique les règles en supposant, donc pour tout x, si je suppose que assume x tau, donc j'ajoute ça dans mon environnement logique, dans ma logique haute, et j'ai bien comme implication que je peux dériver de mes règles que abs de fun y flèche x a le type sigma flèche tau. Pourquoi ça? Parce que je peux montrer que pour tout y, en supposant donc assume y sigma est vrai, je peux démontrer de mes règles x de point tau, puisque assume de x tau est bien disponible dans mon contexte logique. D'accord ? Et comme je le disais, on obtient gratuitement d'autres propriétés, stabilité du typage par affaiblissement du contexte, etc. En revanche, il faut raisonner un petit peu, par exemple, pour se convaincre qu'on ne peut pas avoir de contexte contradictoire, de contexte dans lequel la même variable ou le même terme peut avoir deux types différents. Et c'est essentiellement parce que votre contexte langage haute, votre logique, respecte l'alpha conversion, et donc le x qui est lié par ce pourtout ici et le y qui est lié par ce pourtout ici ne sont pas le même. D'accord ? Voilà. Mais c'est un raisonnement méta qui n'est pas complètement évident. Alors, pourquoi on n'est pas tous en train de faire du HOAS en coq, voire en camel, quand on fait des interprètes ou des compilateurs ? Alors, il y a quelques petits problèmes. Le premier, c'est les termes dits exotiques. En camel comme en coq, le type terme-flèche-terme contient beaucoup de fonctions, beaucoup plus que les seuls codages en HOAS de lambda-terme. D'accord ? Un codage HOAS, c'est essentiellement une fonction qui représente une substitution. Donc, c'est une fonction qui est paramétrique en son argument. De la manière, elle ne regarde pas la forme de son argument. Par exemple, soit elle est constante, soit elle est injective. D'accord ? Soit dans le terme dans lequel on fait les substitutions, la variable n'apparaît pas. Auquel cas, substituer une variable par m ou par n, ça ne change rien. Pardon, je devrais pointer ici. Soit la variable apparaît au moins une fois, et donc la substituer par m d'un côté et par n de l'autre, si ça ne fait pas de différence, c'est que m est égal à n. En revanche, une fonction camel ou coq peut discriminer sur son argument, bien sûr. Alors, on a le filtrage, par exemple, qui nous permet de dire si x est une application, je le laisse tel quel. En revanche, si c'est une abstraction, je l'applique à lui-même. Et une telle fonction n'est pas paramétrique. Vous avez un contre-exemple de la propriété qui est ici. Donc, on a trop de fonctions. Et deuxièmement, le type des termes qu'on est en train de définir n'est pas inductif. Donc, c'est un type algébrique, donc défini comme une somme avec des constructeurs et de la récursion. Donc, Camel l'accepte, mais Koch le rejette, Agda aussi, parce que le type qu'on est en train de définir, terme, apparaît en position négative dans le type du constructeur lab. Donc négatif, ça veut juste dire à gauche d'une flèche. Et ça, ce n'est pas un type inductif. En particulier, on ne peut pas définir l'ensemble de ces valeurs comme un plus petit point fixe, parce que l'opérateur correspondant n'est pas croissant. Et en fait, c'est plus grave que ça, c'est un tel type non inductif permet de définir des calculs qui ne terminent pas, D'accord. Par exemple, on peut encoder le combinateur oméga du lambda calcul. Donc ça, c'est delta, l'auto-application, qui est bien une fonction des termes dans les termes, mais c'est une fonction exotique, ce n'est pas une fonction paramétrique. Et maintenant, si vous faites delta appliqué à lame de delta, eh bien, vous obtenez un terme dont l'évaluation diverge. Et ça, comme on le rappellera dans le cours suivant, ça ne va pas du tout dans le cadre d'une logique comme Koch. Alors, comment contourner ces problèmes ? On peut regarder ce que fait le système 12, qui a été développé par Fenning et Shurman, et étendu ensuite dans d'autres systèmes comme Delphine, Abella, Beluga. Donc, ce sont des logical frameworks, ce sont des systèmes un peu génériques qui permettent de définir et de raisonner des langages et des logiques exprimées dans ce style HOAS. Et comment ils évitent les difficultés ? Avec les termes exotiques et avec le côté non inductif, c'est en restreignant l'expressivité du langage fonctionnel. Donc les termes du langage objet sont représentés dans le langage LF, donc, qui vous donne essentiellement des lambda abstractions, des applications, des constructeurs, mais pas de destructeurs, pas de possibilité de filtrer sur la forme d'un terme. D'accord. Et du coup, il n'y a pas de terme exotique. Toutes vos fonctions sont paramétriques. Toutes vos fonctions sont des contextes glorifiés. Comment est-ce qu'on exprime les opérations sur les termes, les propriétés sur les termes, comme le jugement de typage, ou les métapropriétés, comme la sûreté du typage ? Ben, on exprime tout ça, non pas dans la partie fonctionnelle du système, mais par des prédicats inductifs, donc dans la partie logique. Dans ce qu'ils appellent la métathéorie de 12, qui est essentiellement un prologue d'ordre supérieur, un langage logique. Et donc, ça évite l'incohérence qu'on aurait si on avait des fonctions plus puissantes. Alors après, il y a d'autres variantes. Par exemple, dans Beluga, il y a une notion de fonction récursive dans le métalangage, mais ce sont des fonctions qui ne sont pas des valeurs de première classe et qui ne peuvent pas être utilisées comme des fonctions représentant des lambdas. D'accord. Donc il y a une distinction claire entre les fonctions qui représentent la syntaxe abstraite d'ordre supérieur et puis les fonctions qu'on utilise pour raisonner dessus. Alors, je passe à l'approche suivante, qui sont les approches nominales et les logiques nominales. Donc ça, c'est issu des travaux d'Andrew Pitts et de Murdoch Gabay à l'Université de Cambridge au début des années 2000. Donc c'est vraiment prendre le taureau par les cornes. Donc si on a besoin de travailler avec des noms, avec des renommages, avec des lieux, etc., est-ce qu'on pourrait avoir une logique mathématique qui a ces notions comme notions primitives ? D'accord ? On n'a pas besoin de les encoder, elles sont là dès le départ. Et du coup, si les notions de nom, de renommage, de liaison de nom sont primitives, est-ce qu'on peut ensuite ajuster les règles de la logique pour que toutes les définitions et toutes les propositions, tous les énoncés soient équivariants, c'est-à-dire invariants par renommage ? D'accord ? Cette idée qu'un nom n'a pas d'importance, comme disait Shakespeare, soit dans la logique dès le départ. Donc ça, c'est la high road, la manière vraiment ambitieuse, après, qui est décrite en particulier dans ces articles, donc l'excellent article de Pitts qui montre une axiomatisation de cette approche, et puis les travaux de Gabay qui montrent ensuite comment on peut réaliser ça dans une variante de la théorie des ensembles. Après, si on veut continuer, on peut aussi vouloir continuer à utiliser des logiques plus classiques, celles qu'on a déjà dans nos assistants à la démonstration, mais quand même essayer de reprendre les principales notions de la logique nominale, donc les noms, les renommages et les quivariances, le fait que ça ne change rien de renommer. Alors, et ça, c'est Christian Urban en particulier qui a développé ça dans le contexte de Isabelle Achoël. Alors, bien sûr, tous les types de Isabelle Achoël ou de Koch ne vont pas être nominaux. Peut-être qu'ils ne vont pas tous rentrer dans le moule des opérations nominales, mais on va distinguer, identifier ceux qui sont nominaux via une classe de type. Et puis, donc Urban est allé jusqu'à ensuite aussi rajouter un peu de syntaxe et d'autogénération de propriétés dans Isabelle Achoël. Qui permet de définir des types inductifs nominaux, dans lequel on sait que le type name est un type de nom, donc a des propriétés de renommage en particulier, et que le nom qui apparaît dans le constructeur lambda est un nom lié, d'accord, dans l'argument qui suit. Et donc, étant donné cette déclaration, un petit peu cryptique peut-être, le système définit automatiquement une représentation, lame, où les termes alpha convertibles sont égaux et où il y a les bons principes de récurrence. Alors, maintenant, en 10 minutes, je vais essayer de vous donner un peu l'intuition de cette construction et de c'est quoi les approches nominales en général. Alors, donc, au cœur des approches nominales, je répète, il y a cette notion d'équivariance, donc une définition est invariante par renommage. Mais en fait, les renommages X devient Y, ce n'est pas pratique du tout. En particulier, ce n'est pas injectif, donc il y a plein de conditions sur le côté que Y est suffisamment fraîche. D'accord. Donc, une des idées très jolies de la logique nominale, c'est de raisonner en termes d'échange, de swaps. Donc, un échange, c'est une permutation entre deux noms. Alors, je vais le noter XY, comme ça. Permutation de X et de Y. Et donc, c'est X qui devient Y et simultanément Y qui devient X. Et ça, ça a de très jolies propriétés. D'abord, c'est une bijection, c'est son propre inverse. D'accord. Et du coup, vous pouvez l'appliquer uniformément dans un terme, aussi bien en variable libre qu'aux variables liées, et vous n'avez pas de risque de capture. D'accord. Permuter X et Y dans lambda z.m, vous pouvez permuter X et Y dans Z, et permuter X et Y dans M, et ça fait exactement ce que vous voulez. D'accord. Pas à se poser de questions. Du coup, c'est quoi un type nominal ? Donc c'est un type de votre logique, de votre assistant à la démonstration, qui est muni d'une opération d'échange, donc de noms x, y, c'est une fonction de t dans t, qui satisfait les propriétés attendues. Donc d'abord, échanger x par lui-même, c'est l'identité. Ensuite, échanger x par y, puis x par y, c'est l'identité, donc un échange est son propre inverse. Et échanger U par V, puis X par Y, c'est la même chose que d'échanger X par Y, puis U correctement échangé par V correctement échangé. Et ça, c'est la base du lemme de permutation des substitutions qu'on a déjà vu en indice de De Bruyne. Et donc ça forme une jolie classe de types, d'accord. Et vous pouvez montrer que de nombreux types sont nominaux, le type des noms, lui-même, les types de données qui ne contiennent pas de noms, les entiers, les booléens, les produits, les sommes, les options, les listes de types nominaux, et les fonctions d'un type nominal dans un type nominal. Donc ça fait déjà une belle algèbre de type. Et alors l'étape d'après, c'est d'utiliser cette notion abstraite de permutation pour définir abstraitement des notions de variables libres ou de variables non libres. Alors on appelle ça le occurrence, fraîcheur et support, donc on va enfin définir formellement ce que c'est que la fraîcheur d'une variable. Occurrence, quand est-ce qu'un nom apparaît, entre parenthèses, libre, dans un terme ? Eh bien, c'est caractérisé en termes de permutation, vu qu'on n'a pas d'autre moyen de caractériser quoi que ce soit. Un X apparaît dans le terme T si, quand je permute X par Y dans T, ça fait une différence pour une infinité de noms Y. Alors, il se peut qu'il y ait un petit nombre de noms Y pour lequel ça ne fasse pas de différence, par exemple Y égale X, ou encore Y qui est lié à l'intérieur de T. En revanche, si X apparaît vraiment dans T, pour une infinité de Y, ça va faire une différence. Et donc symétriquement, la fraîcheur, un nom X est frais pour un terme T, s'il n'apparaît pas dans le terme, c'est-à-dire si le permuté avec Y ne change rien pour une infinité de Y. Alors évidemment, pas pour les Y qui apparaissent dans le terme, mais pour tous les autres Y, et dans les priori, il y en a infiniment beaucoup. Et du coup, le support d'un terme, qui est moralement l'ensemble de ses variables libres, c'est tous les noms qui apparaissent dans un terme. Et alors on peut calculer ces notions pour des types nominaux bien particuliers, par exemple pour le type des noms, le support d'un nom c'est lui-même. Pour une paire, le support d'une paire T1, T2 c'est l'union des supports. Pour une liste, T1, T2, TN c'est aussi l'union des supports. Alors pour les fonctions, en revanche c'est plus compliqué, donc je n'entrerai pas dans ces détails. Et par la suite, on s'intéresse particulièrement au type T dont le support est fini. C'est-à-dire tout élément de type T, l'ensemble support de T est fini, ce qui veut dire qu'on peut toujours choisir un nom frais X qui, tel que X est frais, n'apparaît pas dans T, puisqu'on a un ensemble de noms infinis. Et ça, c'est très important pour le raisonnement, d'accord, de pouvoir toujours choisir un nom frais. Et donc, on a à nouveau beaucoup de types nominaux qui sont à support fini, les noms, les produits, les sommes, les listes de types nominaux à support fini. En revanche, comme je le disais, les fonctions de T1 dans T2, ce n'est pas toujours vrai. Et donc, dans l'approche axiomatique de Pitts et Gabay, en fait, ils ont restreint leur logique pour que même les fonctions soient toujours à support fini. En revanche, quand on essaye d'encoder ces idées dans Isabelle Achoël, par exemple, ce n'est pas forcément le cas. Bon. Et puis, alors, la dernière chose qui nous manque pour pouvoir vraiment travailler, c'est de lier un nom. Et donc là aussi, il y a une notion universelle de lieur, un peu comme le lieur universel lambda de Church. Alors, c'est noté crochet XT, je ne sais pas trop pourquoi, mais donc l'idée, c'est que ça, vous avez un terme petit t d'un type nominal grand T, et vous voulez lier le nom X, d'accord, l'abstraire, en faire une variable muette, enfin bref. Donc vous voulez le lier. Alors, ce n'est pas évident de savoir comment construire ça. En revanche, on peut commencer par essayer de caractériser ce qu'on veut, ce qu'on attend de cette liaison. Déjà, on veut qu'elle respecte l'alpha conversion. Donc, la liaison de X dans T soit égale à la liaison de X' dans T'. Si et seulement si, syntaxiquement, X c'est la même chose que X', T c'est la même chose que T'. Ou, à une permutation près, donc T c'est égal à T' dans lequel X est permuté avec X'. Et, c'est là qu'apparaît une condition de fraîcheur, à condition donc, que X soit fraîche dans T'. Donc ça, c'est vraiment l'alpha-conversion écrite, caractérisée, axiomatisée en termes de permutation et de fraîcheur. Et à propos de fraîcheur, donc une variable Y est fraîche dans l'abstraction X, T, si et seulement si Y est fraîche dans T, Y est fraîche dans T est différente de X, c'est-à-dire que X n'est pas fraîche dans l'abstraction de X dans T. D'accord ? X n'est pas libre puisqu'elle est liée. Et en fait, on arrive à construire, à réaliser ces axiomes en disant cette abstraction est vide dans le type non flèche option de T. Donc ça, pour ceux qui connaissent, c'est une forme faible de syntaxe abstraite d'ordre supérieur, HOS. Ce n'est pas des fonctions des termes dans les termes, de T dans T, c'est des fonctions des noms dans les termes, de noms dans T. Et en plus, c'est une fonction partielle qui peut, dans certains cas, refuser de substituer. Donc, la fonction en question, la voici, elle prend un autre nom y, si c'est le même que x, elle renvoie t, si le nom y est frais pour t, elle fait la permutation, et sinon, elle n'est pas définie. D'accord ? Si on lui donne un nom qui est dans t, apparaît dans t, il y a un risque de capture, et donc elle refuse de faire le renommage. Et du coup, eh bien, ces objets vérifient ses propriétés. D'accord. Et ça forme une réalisation convenable du type des noms. Et par exemple, donc, quand vous donnez à Isabelle Achoël cette définition, en fait, le constructeur lame, il va porter en argument des fonctions de ce type, et avec des propriétés en plus. Voilà. Alors, oui, il ne faut pas que je passe trop de temps, mais après, donc, la dernière notion qui est vraiment importante dans les logiques nominales, c'est comment est-ce qu'on quantifie sur les noms frais. D'accord ? Donc on sait maintenant représenter les abstractions dans notre lambda calcul, ça va être un constructeur abs appliqué à un de ces termes, x abstrait dans m. Et donc, à quelles conditions ça a le type sigma flèche tau ? Eh bien, si en ajoutant l'hypothèse que x a le type sigma, m dans lequel on remplace le paramètre abstrait par cette variable x, donc essentiellement c'est ce qu'on obtient en appliquant ici, a le type tau. Mais alors, c'est pas n'importe quel nom x, d'accord ? A priori, qu'est-ce qu'on va dire ? Est-ce que il faut montrer ça pour tout ? Alors, c'est un nom x qui, a priori, doit être frais pour e, doit pas apparaître déjà dans l'environnement, doit être frais pour le corps de la fonction m, sinon on tombe dans ce cas-là et on ne sait pas trop comment faire l'application. Mais donc, d'accord, x doit être frais pour e et pour m, mais est-ce que la prémisse c'est pour tout x frais dans e et m, ou est-ce que c'est pour un certain x frais dans m ? Alors, le pour tout x vous donne un principe de récurrence très puissant, où, donc en supposant que vous avez ce typage, Vous pouvez avoir plein de typages différents pour M en choisissant le X qui vous plaît bien. En revanche, l'introduction, montrer qu'une abstraction est bien typée, est difficile, parce qu'il faut le faire pour tous les X frais. Symétriquement, si vous avez la quantification, il existe un X frais, l'introduction est facile, il suffit d'exhiber un X qui va bien, mais le principe de récurrence va être faible, vous ne pouvez pas choisir le X qui vous plaît. Et la grandeur des logiques nominales, c'est que les deux quantifications sont équivalentes. Donc les logiques nominales, c'est des logiques où parfois il existe et pour tout, c'est la même chose. D'accord ? C'est pas une faute de raisonnement comme on en faisait au lycée, en cours de maths, c'est juste vrai. Et ça, c'est quand même très plaisant. Et d'ailleurs, Pitts et Gabay ont introduit un quantificateur, le N à l'envers, donc que ce soit un caractère cyrillique, je ne sais pas, qui se lit comme new, comme nouveau. D'accord. Et donc nouveau X, ça veut dire pour tout X frais, suffisamment frais dans le contexte, mais ça veut aussi dire il existe un X suffisamment frais dans le contexte. Et donc si vous avez une formule phi de logique nominale avec un paramètre X et puis d'autres termes nominaux T, d'accord. Pour tout, nouveau x point phi de xt, c'est défini comme pour tout x frais par rapport au t, phi de xt est vrai, mais c'est équivalent à il existe un x frais par rapport au t, tel que phi de x et de t est vrai. Et pourquoi c'est équivalent? Parce que phi, étant une formule logique nominale, est invariante, est équivariante, est invariante par permutation. Et donc si vous avez le résultat pour un x, et que vous voulez le montrer pour un autre x' qui lui est frais aussi, eh bien vous permutez x et x' dans la formule, d'accord ? Et ça, c'est équivalent à permuter dans les arguments, dans les composantes de la formule, par équivariance, et c'est équivalent à phi de x' dans t. Alors pourquoi ? Parce que la permutation dans t, elle, ne change pas les t, puisque x et x' sont tous les deux frais vis-à-vis des t, d'accord ? Donc, voilà, c'est QFD. Pour tout, c'est la même chose qu'il existe. Et la vie est beaucoup plus facile. Alors, en nominal Isabelle, HOL, c'est pas vrai. C'est-à-dire, toutes les formules de la logique ne sont pas invariantes par permutation, ne sont pas équivariantes. Et du coup, cette équivalence entre pour tout et il existe a fait partie du principe de récurrence engendré automatiquement par l'outil. Elle est quand même, il faut quand même la montrer, mais l'outil est capable de le faire automatiquement. Voilà, et donc comme application, ça c'est la règle de typage pour une abstraction, l'abstraction abs de XM. C'est nouveau X, en prémisse, c'est nouveau X. Si dans E, enrichi par l'hypothèse que X est le type sigma, M, rafraîchi par X est le type tau, alors vous pouvez conclure. Et donc, pour construire, pour introduire ce typage, il suffit de trouver un seul X frais. Et pour inverser ou faire des récurrences, vous pouvez l'utiliser pour tous les X frais, une infinité. Bien. Et alors, il ne faut pas trop que je déborde. Quand c'est les autres qui font des séminaires, je les foudroie du regard, généralement, quand on arrive à ce moment de l'exposé. Donc, rapidement, la dernière approche, l'approche sans noms locaux, qui est une espèce de synthèse de plusieurs idées qu'on vient de voir, qui a été introduite initialement par McKenna et Pollack dans une des premières formalisations de systèmes de type sur machine. Et puis redécouverte d'une certaine manière pendant le Popelmark Challenge, et joliment publié et expliqué ensuite dans cet article collectif. Donc il y a deux idées dans cette approche. La première, c'est de représenter différemment les variables libres et les variables liées. Ce n'est pas le même constructeur var que vous avez dans votre syntaxe abstraite. Il y a freevar et boundvar. Et ça permet déjà d'avoir moins de problèmes de capture. On va voir pourquoi ensuite. Et la deuxième idée, c'est que les variables libres, vous pouvez tout à fait les représenter par des noms, des chaînes de caractères, c'est beaucoup plus lisible, puisque vous ne pouvez pas les renommer. En revanche, les variables liées, vous allez les représenter par des indices de De Bruyne, puisque elles vont a priori avoir besoin d'être renommées, et avec des indices de De Bruyne, vous avez une représentation canonique, où l'alpha conversion est automatique. Et donc, voilà ce que ça nous donne pour une représentation des lambda termes. Donc vous avez deux types de variables, une variable liée, identifiée par son indice de De Bruyne n, une variable libre, identifiée par un nom x, une abstraction qui implicitement lie la variable liée d'indice 1, donc il n'y a pas besoin de la noter par un nom de variable, et une application. Par exemple, donc lambda x, x appliqué à y, x est lié, y est libre, ça va être lambda indice 1 appliqué au nom y. Et après, pour que ça marche, il y a un invariant crucial, qui est que les termes sont toujours localement clos. Il n'y a pas d'indice de De Bruyne libre. D'accord ? Un indice ne code jamais une variable libre. Un indice ne code qu'une variable liée. Alors du coup, on n'a pas une, mais deux opérations de substitution. Il faut savoir substituer un nom par un terme ou un indice par un terme. Et là, je vous ai marqué les cas délicats, les cas pour les lambdas. Et ce qui est très joli, c'est qu'il n'y a pas de risque de capture. D'abord, N est localement clos, il n'y a pas d'indice de Debrun libre dedans, donc vous pouvez descendre N sous des lambdas qui lient des indices de Debrun, ça ne pose pas de problème. Symétriquement, dans N, il peut y avoir des variables nommées libres, mais le lambda ne lit pas de variables nommées, personne ne lit de variables nommées, donc il n'y a pas de problème de capture. Du coup, la définition est très simple. Et alors bien sûr, il faut encore prouver des lemmes de commutation, mais c'est plutôt plus simple que dans l'approche indice de De Bruyne. Et là aussi, ça peut s'automatiser par des outils comme LNGen, par exemple. Après, la question d'après, c'est comment est-ce qu'on récurse, comment est-ce qu'on descend récursivement dans un terme, en particulier quand ce terme est une abstraction lambda.m, et quel principe de récurrence on va vouloir pour ça. Alors la très mauvaise idée, ce serait de récurser sur m, le corps de la fonction. Parce que le corps de la fonction n'est pas localement clos. La variable d'indice 1 peut apparaître dedans, si votre fonction n'est pas constante. Donc vous avez violé tous vos invariants, ce n'est pas bon. Donc ce qu'il faut faire, c'est récurser sur m rafraîchi par x, c'est-à-dire m dans lequel on remplace le paramètre formel 1 par une nouvelle variable x, variable libre, bien choisie, avec un degré de fraîcheur suffisant. Et par exemple, c'est ce qu'on fait dans la règle de typage pour l'abstraction, lambda m a le type sigma flèche tau, si, en supposant x de type sigma, m rafraîchi par x, donc m dans lequel le paramètre formel a été nommé variable x, a le type tau. Et alors bien sûr, la fraîcheur de x est importante, donc il faut que x ne soit pas dans le domaine de E et ne soit pas libre dans m. Et là encore, se repose la question de la quantification. Est-ce que c'est pour tout x frais où il existe un nom x frais. C'est le même dilemme que dans l'approche nominale. Et donc là aussi, le « il existe » est plus commode pour l'introduction et le « pour tout » est plus puissant pour la récurrence. Et là aussi, on peut montrer que les deux quantifications sont équivalentes. Et pour ça, il suffit, entre guillemets, de montrer que notre jugement de typage dans E, M, L, type tau est équivariant, invariant par échange. Et donc, on peut le faire, mais il faut avoir réintroduire toute une mécanique d'échange et de montrer que nos définitions sont invariantes par échange, ce qui est beaucoup de travail. Donc, c'est ce que j'avais fait dans le challenge Popelmark pour utiliser l'approche de Pollack. Mais je peux vous attester que c'est beaucoup de travail. Et ensuite, ça a inspiré en particulier Brian Heidemir et Arthur Charguero pour trouver une autre solution, qui est plus simple en termes de preuve, qui est la quantification cofinie. Donc l'idée, c'est de quantifier universellement sur tous les x qui n'appartiennent pas à un certain ensemble fini L de noms. D'accord ? Donc c'est un mélange de « il existe » et de « pour tout ». L, c'est un ensemble fini de noms, c'est les noms qui doivent être évités. Et typiquement, il va inclure les noms qui sont libres dans E, qui apparaissent dans E et qui sont libres dans M, mais il peut être choisi plus grand. Ça peut être pratique pour des démonstrations, de dire « non, finalement, j'ai besoin d'un L plus grand ». L'important, c'est qu'il soit juste fini. Et du coup, quand on fait une récurrence, on sait quand même que la prémisse est vraie pour une infinité de X. Et donc, on peut choisir le X qui nous arrange, un X qui est frais pour d'autres, qui respecte d'autres contraintes de fraîcheur. Et pour l'introduction, donc, on peut choisir L suffisamment grand pour exclure tous les X qui nous ennuient. Et il n'y a que une quantification. Il n'y a pas besoin de montrer l'équivariance de votre jugement de typage pour en conclure que le pour tout et le il existe sont équivalents ici. Donc, en guise de conclusion, il n'y a pas vraiment de conclusion, au sens où je ne peux pas vous dire c'est ça la bonne approche qui parmi les quatre ou même parmi quelques autres qui ont été envisagées. Donc, je vous avais parlé du Popelmark Challenge, donc cette mécanisation du système F-sub. Donc, il y a eu 15 solutions différentes soumises, utilisant 8 représentations différentes des variables et des layers, et un certain nombre d'assistants à la démonstration. Donc là, vous avez la combinatoire. Et donc, vous voyez que bon, De Bruyne tient la route, il y a eu trois solutions. Les solutions en syntaxe abstraite d'ordre supérieur ont été faites dans des systèmes spécialisés, Twelf et Abella. Il y a donc le locally nameless, l'approche localement sans nom, qui a eu un certain succès aussi, et encore d'autres approches. Ah oui, et un peu d'approche purement nominale, en particulier utilisant Isabelle Achoël. Je pense qu'aucun des auteurs d'aucune de ces solutions n'est prêt à admettre qu'il a perdu et que les autres solutions sont meilleures. Donc, on n'a pas vraiment conclu. Alors, si on regarde un peu les mécanisations de langage et de systèmes de type un peu plus costauds là, qui existent dans la littérature, je vous ai fait un petit panorama. Là aussi, il n'y a pas beaucoup de conclusions. Certains développements n'utilisent pas d'alpha conversion du tout. Par exemple, les travaux sur Lambda Rust, dans le cadre de Rust Belt, qui ont été présentés lors du dernier séminaire. Donc, c'est du coq, il n'y a pas de renommage. Sur les trois formalisations de l'algorithme W, l'algorithme d'inférence de type de Camel et de Haskell que je connais, il y en a deux qui n'emploient pas de nom, de renommage, pardon, et une qui est en Isabelle nominale. D'autres gens utilisent du Debrun en coq. Andrew Apple a utilisé plutôt du HOAS aussi. Ah oui, Crary et Harper ont fait du HOAS en 12 pour leur mécanisation de standard ML. Bref, là non plus, il n'y a pas vraiment de consensus. Donc ça, c'est des mécanisations de langage et de système de type. Si vous allez voir maintenant du côté des compilateurs, les transformations de programme, mon sujet favori, ben là aussi, il y a les plus gros développements, soyons honnêtes, les plus gros développements n'utilisent pas d'alpha conversion. Donc c'est le cas de CakeML, le compilateur standard ML de Magnus Myhrin. Oui, il est intéressant de voir que la définition de standard ML, définition formelle, n'utilise aucune alpha conversion non plus. CompCert n'utilise pas d'alpha conversion, Klein et Nipkow sur leur projet Jinja non plus. Il y a eu, par exemple, Zainab Argay, qui fait un compilateur mini-ML en utilisant des indices de Debrun en coq. Adam Schlipala, qui a utilisé une variante de HOAS compatible avec coq, qui s'appelle Parametric HOAS. Bref, pas vraiment de consensus non plus sur la meilleure approche. Donc, il y a vraiment une tension entre, d'un côté, des systèmes dans lesquels il est assez facile de représenter un langage objet, et de l'autre, des systèmes dans lesquels on a une logique puissante sur lesquels on peut faire des raisonnements complexes. Coq, Isabelle Achoël, c'est des logiques très puissantes dans lesquelles vous pouvez faire tous les raisonnements mathématiques que vous voulez, mais il y a peu d'aide pour représenter un langage objet. À l'autre bout du spectre, Twelf, est vraiment fait pour, mais c'est une logique extrêmement pauvre. D'accord, où il n'y a pas de polymorphisme, on doit pouvoir faire l'arithmétique, mais on va souffrir. Il n'y a pas de polymorphisme, donc il n'y a pas de bibliothèque, aucun concept n'est réutilisable, etc. Après, il y a une petite curiosité, en tout cas qui m'intrigue, jusqu'à quel point les approches nominales sont compatibles ou non avec des logiques constructives. On entend des bruits comme quoi il y aurait quelque chose de fondamentalement non constructif dans les approches nominales. Je ne suis pas persuadé qu'en restreignant un peu, en perdant un petit peu l'expressivité, on ne peut pas revenir dans un cadre purement constructif. Et puis, à la fin, il reste aussi une question difficile qui est l'adéquation. Donc, adéquacy, dans la littérature en anglais. L'adéquation, c'est est-ce que le système qui est formalisé correspond à notre compréhension informelle, à nos attentes. Donc, on a pris le lambda calcul simplement typé. Tout le monde sait ce que c'est, depuis Church, 1940 et quelques. Et puis, on l'a codé en 12 avec cette approche. On l'a codé comme ça en 12. Est-ce que c'est le même système ? D'accord ? Est-ce que... Alors, j'ai essayé d'argumenter pourquoi. Si, parce que le contexte de typage est bien représenté comme il faut. Et puis, là aussi, j'ai essayé d'argumenter. Non, on ne peut pas avoir de situation contradictoire comme ça, parce que... Mais c'est des raisonnements qui ne sont pas complètement évidents. Et alors le problème se pose avec d'autres représentations aussi, hein, même ne serait-ce qu'avec les indices de De Bruyne, par exemple, il faut parfois réfléchir un petit peu pour savoir si ce qui a été écrit et énoncé correspond bien à ce qu'on avait en tête. Et sur cette conclusion qui n'en est pas vraiment une, je vais m'arrêter. Très bien, merci.